Qu'est-ce que c'est que la philosophie, en fait, Jean-François Rey ?
Ah, c'est une question qui est aussi vieille que la philosophie elle-même et qui survivrait à la philosophie si la philosophie devait disparaître. La philosophie, elle commence à partir du moment où on ne prend pas les choses comme elles sont, comme on nous a dit qu'elles sont, ou comme elles apparaissent. C'est-à-dire quand on s'étonne d'abord, on s'étonne, on s'émerveille des choses telles qu'elles sont, et en plus quand on veut en savoir un peu plus. La philosophie suppose des sciences, suppose des savoirs, mais suppose surtout un exercice de la pensée individuelle d'abord, personnelle. Cet exercice de la pensée, il se développe, dès que l'enfant commence à parler.
Voilà. Alors, comment et pourquoi devient-on philosophe, finalement ?
Ah, ça, c'est une question qui, évidemment, dépend du contexte dans lequel on vit. En France, on a la chance, c'est une exception dans le monde. Hein. En Europe, c'est une exception quasiment absolue. La philosophie se fait dans le secondaire. Donc toute une classe d'âge qui va jusqu'à présent au lycée a un contact avec la philosophie à travers un professeur de philosophie. L'immense majorité des philosophes français sont avant tout des professeurs, hein, ou des chercheurs, ou des enseignants-chercheurs. Alors la philosophie se nourrit à deux sources. D'une part de sa propre histoire, c'est-à-dire des textes que nous ont légués les philosophes du passé, et d'autre part du présent, de l'actualité. Et un philosophe, évidemment, c'est quelqu'un qui essaye de dégager du présent des éléments qui lui paraissent intéressants et d'en faire des concepts qu'on pourra s'approprier et comme on veut.
La philosophie a plus de 2000 ans maintenant, on va dire.
Hein. Oui.
Qu'est-ce qu'il reste comme structure de cette philosophie ? Comment ça a traversé le temps ? Quels sont les fondamentaux qui sont indispensables peut-être pour connaître le monde ?
Alors la philosophie a effectivement traversé le temps. Il n'est pas sûr qu'elle ait été tout le temps la bienvenue. Hein. Ce qu'on appelle la philosophie grecque antique remonte à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ, avec la dissolution en 529 des écoles grecques de philosophie par l'empereur Justinien et l'exil des philosophes grecs vers les pays du Moyen-Orient. Ce qu'on peut constater, c'est que les philosophes ou la philosophie réapparaît régulièrement dans la culture. Et donc, si on prend l'histoire de la philosophie, on ne peut pas dire qu'il y ait une unité. Il y a des écoles, il y a des périodes, il y a des thèmes, il y a des noms d'auteurs. Et ces auteurs, ils font école. Et la philosophie, elle se développe à l'intérieur des écoles de pensée.
À quel moment la philosophie a été, mise en veilleuse, contrainte au silence, on va dire ?
Alors, en ce qui concerne la France, ça a été au XIXe siècle, avec toute la période de restauration de la monarchie de Juillet et du Second Empire, qui essayait de la bannir de l'enseignement, où la Révolution française et Napoléon l'avaient mise, en pleine offensive religieuse, on dirait aujourd'hui intégriste. Et bien entendu, la philosophie clandestine à l'époque, c'est-à-dire qui n'était plus institutionnel, se faisait œuvre de résistance.
Si on compare avec les mathématiques, il y a eu un moment en France, dans les années 60, il y a eu les mathématiques modernes. Est-ce qu'il y a eu une philosophie moderne qui a fait peut-être qu'un certain nombre de personnes normales, on va dire, prennent un peu de distance ou ne comprennent plus trop à quoi le philosophe se référait ?
Oui, c'est une question. C'est une question qu'on pose souvent. C'est une question un peu naïve ou faussement naïve. Je disais tout à l'heure que le philosophe, il travaille dans le présent, hein, même s'il utilise des textes de l'Antiquité, de Moyen Âge, il travaille dans le présent. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une philosophie moderne comme il y a eu des mathématiques modernes, et je ne souhaite pas qu'il y ait introduction d'une philosophie moderne dans les mêmes circonstances que s'est faite la désastreuse opération des mathématiques modernes à l'école, au collège. Non, je pense que chaque génération de philosophes essaye de trouver un langage qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, à tout le monde au même moment. Mais on essaye de trouver un langage qui correspond au problème du temps, au problème de l'heure, au problème du temps.
Ce langage, il sert aux philosophes à communiquer entre eux ou il sert aussi à communiquer avec, j'allais dire, le peuple? Peut-être qu'on pourra définir ce que c'est que la notion de peuple en philosophie.
Je dirais qu'il y a les deux sont nécessaires. Il y a, dans certaines philosophies, pas dans toutes, mais dans certaines écoles, des concepts avec des noms barbares, grecs plus souvent, qui sont un peu un code entre gens de la même école ou du même courant de pensée. Mais bien entendu, les mêmes ou d'autres ont la charge d'établir le contact entre ce langage, ce jargon parfois même de la philosophie, avec les préoccupations des gens ordinaires, c'est-à-dire des gens qui ne font pas habituellement de la philosophie.
Ces philosophes, pour l'instant, est-ce que vous trouvez qu'ils ont suffisamment de moyens d'expression, de moyens de communication à leur disposition? Et s'ils les avaient ou s'ils en avaient davantage, qu'est-ce qu'ils en feraient?
Alors, si je prends l'histoire récente, je dirais qu'ils n'en ont jamais eu autant. Hein, aussi bien dans les médias que dans... Même que dans le système scolaire, puisqu'il est question... Il est toujours question à la fois de supprimer la philosophie, ça c'est un danger permanent, et en même temps de l'enseigner de plus en plus jeune. Par exemple, maintenant, il y a des enseignants qui ne sont pas des philosophes, des instituteurs, des professeurs des écoles, qui font des débats, des ateliers de philo, dès la maternelle même. Et là, on philosophe. Hein. Ce que je reprendrai là... La distinction que faisait Kant entre faire de la philosophie, c'est ce que font les professeurs et les étudiants en philosophie à l'université, et philosopher, OR, verbe à l'infinitif. Ça, philosopher, on postule, et si on ne postule pas, ben, on fait autre chose, mais on postule que c'est accessible à tout le monde.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme différence entre un café philo et finalement des conversations de bistrot?
Ben, personnellement, je ne vois pas la différence entre café philo et conversation de bistrot. Je dirais que ça a pu être, pour certains bistrots parisiens ou autres, l'occasion de changer de clientèle ou d'élargir leur clientèle. Et bien sûr, au début de la mode des cafés philo, je suis allé traîner mes oreilles près de la Bastille ou ici dans la métropole. Je n'y ai trouvé que du bavardage.
À quel moment se fait, je veux dire, la partie réflexion, la partie construction, je vais peut-être pas forcément dire de théorie, mais de quelque chose qui fait trace, qui a un sens?
Ben, je pense que la philosophie, on commence à faire de la philosophie, sans le savoir, comme M. Journin, la plupart du temps, à partir du moment où on a une attitude réflexive sur soi-même. Je fais quelque chose, je me demande qu'est-ce que j'ai fait là, pourquoi je l'ai fait, en vue de quoi. Et à ce moment-là, précisément, je peux être philosophe. Alors, ce que j'ai fait, ça peut être résoudre un exercice mathématique, ça peut être affronter une question difficile dans l'histoire, ça peut être tout ce que vous voulez, du domaine de la culture ou de la vie quotidienne, à condition où on prend une position réflexive sur cette histoire.
Quelles seraient les passerelles ou les antagonismes, par exemple, entre la philosophie et la psychanalyse?
Alors, la philosophie et la psychanalyse ont évidemment beaucoup de points communs. À l'origine, Freud se méfiait énormément des philosophes. Lui-même, d'ailleurs, aurait voulu être philosophe. Il admirait beaucoup Nietzsche, par exemple, dans sa jeunesse. Mais il reproche aux philosophes un esprit systématique, et une part trop grande accordée à la conscience, alors que lui découvre ou invente l'inconscient. Mais si la philosophie et la psychanalyse se sont ignorées dans la première moitié du XXe siècle, les passerelles entre les deux disciplines à partir des années 50 et surtout des années 60, deviennent innombrables. Et aujourd'hui encore, ça demeure, il y a un dialogue profond entre psychanalyse et philosophie, qui n'ont pas les mêmes techniques, qui n'ont pas nécessairement les mêmes concepts, mais qui, toutes les deux, sont des aventures de la liberté.
Pour tout philosophe, j'allais dire, tout est motif d'interrogation, non ?
Tout, je ne sais pas. Toutes les questions que l'on peut se poser ne sont pas toutes forcément des questions philosophiques. La question pourquoi le réchauffement climatique n'est pas une question philosophique. Par contre, la question tout progrès technique est-il nécessairement bon et à accepter comme tel peut être, sous certaines conditions, une question philosophique.
Est-ce qu'il existe des philosophes universels, entre guillemets, qui ont une culture universelle des sujets ou des contenus philosophiques, ou est-ce que chacun, à un moment donné, doit se spécialiser ?
Alors, il est évidemment, vous voyez bien qu'il est très difficile aujourd'hui d'avoir une culture universelle. C'est sans doute impossible, et ça a sans doute jamais eu vraiment lieu d'être, même chez les encyclopédistes du XVIIIe siècle ou chez les philosophes de la Renaissance. Pourtant, un professeur qui a enseigné ici pendant longtemps disait autrefois que, par exemple, si vous lisez une dizaine d'ouvrages en quatre langues européennes, français, anglais, allemand, italien, concernant, par exemple, la biologie, des recherches aujourd'hui en biologie, avec ces ouvrages bien choisis, donc vous devez être guidé par quelqu'un qui connaît, là, qui est un spécialiste, vous pouvez vous faire une idée d'honnête homme de l'état de la biologie aujourd'hui. Ça ne fera pas de vous un biologiste. C'est-à-dire que vous n'irez pas dans les congrès ou dans les colloques de biologistes pour défendre tel ou tel point de la recherche. Mais néanmoins, vous voyez ce que ça suppose de connaître quatre langues et d'avoir le temps de lire une dizaine d'ouvrages. Mais si ce n'est pas donné à tout le monde, forcément, ça n'est pas impossible.
Alors, Jean-François Rey, est-ce que vous vous êtes spécialisé à un moment donné ? Si oui, sur quelle thématique ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous motive ?
Bien, moi, je me suis dirigé assez tôt vers la philosophie morale et politique. Hein. C'est-à-dire que je ne on ne voyait pas dans la branche épistémologie, logique, histoire des sciences. Je ne me voyais pas non plus sur le versant, sur un versant plus métaphysique, mais je trouvais que l'action, la justice, l'éducation étaient des champs de recherche qui concernent tout le monde et qui concernent le philosophe aussi.
C'est peut-être un peu le sens de votre intérêt pour l'université Lille-1 et réciproquement ?
Alors oui, bien sûr, à l'université Lille-1, on a la chance, moi j'ai eu la chance de trouver très tôt, dès mon installation dans la métropole, des gens qui étaient à la fois des mathématiciens ou des physiciens, des enseignants, de très bons enseignants, des chercheurs et aussi des militants. Donc militants au sens noble, c'est-à-dire des gens qui n'acceptent pas comme tel le monde tel qu'il va.
Donc dans une université a priori scientifique, remettre du sens ou de la réflexion, c'est fondamental ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, pas seulement dans une université scientifique, mais effectivement l'activité scientifique et technicienne est toujours menacée par une sorte d'emportement, d'enthousiasme hein, que les Grecs appelaient hubris et qui, effectivement, fait parfois faire n'importe quoi.
Donc là, vos thématiques pour Lille-1 sont, bon, on va dire, il y a essentiellement les visages de la justice. Les visages de la justice ou
les
le
visages,
visage. Les visages, d'accord. Donc, la justice, bon, actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'elle est malmenée ? Et est-ce que pour le philosophe, c'est une préoccupation ou pas ?
La justice, si je prends par exemple cet ouvrage, Visage de la justice, visage au pluriel, comme vous l'avez signalé, l'idée m'en est venue d'une part parce que j'ai consacré un ouvrage précédent sur cette question-là, un ouvrage de philosophie. Et là, l'aiguillon, si je puis dire, de la désastreuse affaire d'Outreau, hein, d'une part, et puis sur le sentiment d'injustice révélé par la crise des banlieues en 2005, eh bien, nous avons décidé avec l'Espace Culture de consacrer un cycle de conférences à cette question.
Alors, quand on organise un cycle, on a une idée, je suppose, d'un projet à long terme. Donc, il y a, je ne sais pas si on peut dire une progression, mais il y a une organisation des thématiques.
Oui, bien sûr. L'élaboration du cycle sur la justice, comme d'ailleurs d'autres cycles, a été de respecter précisément tous ces visages, tous ces aspects de la justice. D'abord le visage sous lequel la justice nous apparaît aujourd'hui, donc j'ai évoqué Outreau. Je pouvais évoquer aussi donc le sentiment d'injustice dans les banlieues. Je pouvais aussi ajouter la place problématique du juge d'instruction dans les institutions judiciaires françaises, ou l'absence, la quasi-absence de pouvoir judiciaire au sens strict du terme en France. Et bien, je ne voulais surtout pas, évidemment, couper cet aspect-là de la justice en tant que concept philosophique, en tant que vertu, comme on l'appelait depuis Aristote, en tant que théorie d'une société juste. Hein, il y a des philosophes américains, notamment, au XXe siècle, qui ont réfléchi aux conditions nécessaires pour dire qu'une société est juste, ou bien quel principe de justice devons-nous adopter.
Alors, cette justice, est-ce que justement elle n'est pas soumise aux contraintes locales? Quand je dis locales, ça peut être aussi bien politique que religieuse.
Alors bien sûr, on ne fait pas de la même philosophie en France où même si les occasions de s'indigner sont nombreuses. On peut encore oser philosopher sans prendre trop de risques. Il n'en va pas la même en Iran, par exemple, ou en Chine, comme vous savez. Ça peut changer un jour, hein, bien entendu. Mais les conditions de l'exercice de la philosophie ne sont pas les mêmes partout.
Est-ce que vous connaissez des philosophes dans le monde entier? Est-ce que vous êtes en réseau? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous parlez de pays où la philosophie est difficile à exercer? Est-ce que vous connaissez des philosophes de pays dont vous parlez?
Alors oui, j'ai connu un philosophe iranien d'une cinquantaine d'années maintenant qui a la double nationalité iranienne et canadienne et qui, lors d'un voyage en Iran, s'est retrouvé kidnappé par les services secrets iraniens, torturé, emprisonné, etc. Il a la double nationalité, donc après une campagne internationale, il a pu se libérer des geôles iraniennes. Les philosophes se rencontrent à l'occasion de la vie universitaire, des colloques, hein, donc, qui sont faits pour ça, justement, où on découvre telle ou telle figure, tel ou tel penseur, tel ou tel chercheur. Il y a une sorte comme ça de... Bon, pas d'international, le mot n'irait pas, mais une sorte d'université internationale, oui. Moi, je n'y suis pas allé, mais il y avait des colloques en Chine sur Emmanuel Levinas, qui est très connu en France, pas depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, et qui compte, c'est une grande surprise, beaucoup de lecteurs en Chine, ce qui pour un auteur qui n'était pas traduit et qui a une langue difficile, est un exploit. On ne s'attend pas à trouver autant de lecteurs d'Evinas à Shanghai, par exemple.
Est-ce que la philosophie à Shanghai ou en Chine, d'une manière générale, est enseignée, développée? Parce que là, vous dites qu'il y a des lecteurs. Peut-être qu'elle existe aussi, non?
La philosophie en Chine se développe. Elle, évidemment, il ne faut quand même pas oublier que la Chine est un pays à partie unique, un pays qui se réclame du communisme et du marxisme. Donc il y a évidemment, comme dans tous les pays ex-communistes, un enseignement officiel où la philosophie officielle, c'est le marxisme-léninisme. Donc il y a ça. Mais parallèlement, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, par des réseaux qui nous échappent un peu, il y a des recherches, effectivement, en phénoménologie, en histoire des sciences, très intéressantes. Oui.
Donc si on revient à Lilin, qu'est-ce que vous proposez au grand public, puisque c'est aussi le public qui vous intéresse ici?
Ce qu'on propose au public, c'est de rencontrer des chercheurs plus ou moins connus, plus ou moins précédés d'une réputation scientifique indiscutable. Ça, c'est le premier critère, d'une garantie scientifique. Chercheurs qui acceptent de sortir de leur laboratoire ou de leur revue et de parler une langue que peut entendre le public cultivé, qui n'est pas, évidemment, la plupart du temps, spécialiste de la question dont va traiter l'invité.
Est-ce que le fait que beaucoup de choses maintenant sont mises en commun, sont mises à portée des gens par Internet, sur des sites web, des webcams, des web-tv, etc., ça peut favoriser non seulement les échanges, mais le développement de la philosophie, ou du moins de la prise de conscience de ce que peut être l'humanité?
Oui, je pense, ça fait partie des conditions favorables dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr, même si personnellement je suis un peu timide par rapport à tous ces moyens de communication et d'information, il reste quand même un critère de sérieux. Je parlais tout à l'heure de scientificité. On sait bien qu'on est obligé de dire aux étudiants de ne pas prendre tout ce qu'ils trouvent sur Internet, de se donner les moyens de faire le tri, de critiquer les sources. Et on est toujours obligé de dire, de faire très attention justement à ce qui circule sur Internet. Il y a le meilleur et le pire.
Alors, quand on enseigne la philosophie dans des lycées ou dans des établissements d'enseignement, on va dire, il y a un côté public forcé. Quand on discute avec les gens, quand on va les voir, quand on les rencontre et qu'on échange, là, il y a une libre circulation de la parole, et puis il y a peut-être une correspondance entre ceux qui parlent, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de choses forcées. Qu'est-ce que ça change?
J'ai envie de dire que la philosophie, du moins telle que je l'entends, est égalitaire, et la notion de hiérarchie n'est pas une notion philosophique. Je dis tout de suite, ça peut être une notion institutionnelle. Il y a une UFR avec un directeur, un président d'université, un ministre, etc., certes, mais la hiérarchie n'a en tant que telle aucune espèce de valeur de conviction. Celui qui a mis ça en acte le premier, c'est Socrate. Socrate s'adressait aussi bien aux jeunes aux dents longues comme Alcibiade, qui faisait partie de l'élite et voulait gouverner la cité, qu'à des gens plus modestes, des artisans. On postule, c'est un postulat effectivement la philosophie est faite pour tout le monde.
Voilà, merci Jean-François Rey. Pour en savoir plus, peut-être on peut rappeler le titre Visage de la justice.
Dans la collection Les rendez-vous d'Archimède aux éditions L'Harmattan.
Merci, très bonne soirée.
Merci.